Bienvenue au podcast d'El Shaddai. Vous allez écouter une parole qui va vous édifier et qui vous permettra d'avancer afin d'être bien établi dans votre vie chrétienne. Excellente écoute.
Donc le Saint-Esprit est le seul qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Et lorsqu'il vient t'assister, alors il harmonise ta vie, ta vision, ta compréhension des choses selon Dieu. En ce moment-là, tu te mets en harmonie avec Dieu et Dieu peut dire que cet homme-là, il pense comme moi, il réfléchit comme moi, il décide comme moi. Et donc, dans ce sens, ta vie, la priorité de ta vie, c'est satisfaire Dieu et non pas toi-même. Alors, c'est pourquoi quand vous regardez la vie de Saül, Saül a essayé de se satisfaire. On l'a consacré et il a utilisé la consécration pour se satisfaire. Mais David, lui, il s'est consacré pour satisfaire Dieu. Et lorsqu'on veut satisfaire Dieu, évidemment, c'est pour satisfaire le peuple de Dieu. Parce que nous sommes consacrés pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Et non pas pour être servis nous-mêmes. Donc, à travers ces deux cultes, nous allons voir essentiellement trois choses que le Saint-Esprit fait pour nous aider à nous consacrer à Dieu. La première chose, c'est la révélation. Le Saint-Esprit est l'auteur de la révélation. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, il va lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse comprendre ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc, il adapte sa vie au plan de Dieu. Et hier, avec les adolescents, j'avais commencé à voir cela dans le cadre de Joseph en particulier. Ce matin, on va changer de personnage. Hier, on a pris Joseph parce qu'il était un adolescent au moment où le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour qu'il puisse voir sa destinée. Mais ce matin, nous n'avons pas d'adolescent parmi nous, donc nous allons changer de personnage pour prendre une personne adulte. Parce que Dieu opère avec les enfants, avec les ados, avec les adultes et aussi avec les personnes âgées. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait pour nous aider à nous consacrer, c'est la manifestation. La manifestation du Saint-Esprit qui est différente de la révélation. La révélation, c'est une porte d'entrée pour les manifestations. Donc, les manifestations du Saint-Esprit nous aident à nous consacrer. Et le troisième élément important, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous aide à nous consacrer à Dieu. Donc, pendant les deux cultes, on va voir ces trois éléments. En fonction de l'heure, on commence avec le premier élément et puis on verra si on va pouvoir aborder le deuxième élément en attendant le deuxième culte. Donc, nous allons commencer la lecture ce matin dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, amen. Merci beaucoup. Donc, on voit ici la prophétie d'Isaïe concernant le Seigneur Jésus-Christ qui allait avoir la plénitude du Saint-Esprit, autrement dit, l'onction sans mesure. Et ce Jésus qui est le dernier Adam selon la révélation de Paul, mais qui est aussi le premier-né de la nouvelle création, il va être celui qui va porter la plénitude du Saint-Esprit comme aucun autre homme n'a jamais porté. C'est pourquoi Ésaïe relate dans son chapitre 11 les sept esprits de Dieu qui vont se reposer sur Jésus. Et les sept esprits de Dieu, c'est d'abord l'esprit de l'Éternel, ensuite l'esprit de sagesse, ensuite l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Voici les sept esprits de Dieu qui, que vous pouvez trouver aussi dans le livre de l'Apocalypse ou la Révélation. Et ces sept esprits de Dieu constituent la plénitude de Dieu dans un homme. Et l'apôtre Paul a eu cette révélation en disant quand Jésus était la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu habitait corporellement dans le Seigneur Jésus. Avant lui, des gens ont eu le Saint-Esprit. Ils ont eu sur eux le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas toute la plénitude. Il y en a qui ont eu la force, il y a d'autres qui ont eu la sagesse, il y a d'autres qui ont eu la connaissance. Mais Jésus a été le seul à avoir la plénitude des sept esprits de Dieu. À partir de lui, il a été maintenant possible de baptiser d'esprit et de feu. Parce que comme lui, il avait tout. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc si tu as reçu une moitié, tu ne peux donner qu'une moitié. Mais Jésus a reçu la plénitude, c'est pourquoi il pouvait baptiser tout le monde d'esprit et de feu. Maintenant, si vous voulez être consacré à Dieu, comme Jésus qui a été un modèle de consécration, parce que Jésus a été le seul homme sur la terre qui a vécu, ayant été tenté en toutes choses, mais n'ayant commis aucun péché. Ça n'a jamais existé. Mais Jésus a été tenté en toutes choses. Tout ce qui peut être péché, Jésus l'a été tenté. Mais il n'a commis aucun péché. Ça, c'est une vie totalement dédiée à Dieu, une vie de consécration à 100%. Pourquoi cela a été possible avec Jésus? C'est parce que la plénitude du Saint-Esprit était avec lui. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va nous aider à dédier notre vie à Dieu. Et quand vous regardez l'Esprit de l'Éternel, ça parle de la vie éternelle. À partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, tu es entré dans une éternité avec Dieu. Donc, l'éternité avec Dieu, c'est tout un mystère. Tout le monde connaîtra l'éternité. Mais quels sont ceux qui seront dédiés à Dieu pour leur éternité? C'est ceux-là qui seront remplis du Saint-Esprit. Sinon, ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui n'ont pas connu le salut, ils auront une éternité aussi, mais pas avec Dieu. Ils auront une éternité avec Satan dans la géhenne de feu. Mais le Saint-Esprit qui vient dans ta vie veut dédier ta vie à Dieu maintenant et jusque dans l'éternité. C'est pourquoi la consécration, c'est quelque chose qui est juste comme une anticipation de ta vie éternelle. Parce que dans l'éternité, tu seras totalement dédié à Dieu. Il n'y aura pas d'autre choix à faire. Lorsque nous allons parvenir, n'est-ce pas, auprès du Seigneur, on n'aura pas d'autre choix. C'est parce que nous sommes dans le monde qu'il y a des choix à faire. On choisit Dieu ou bien on choisit le monde, on choisit Satan. Quand on va arriver dans la gloire, il n'y a plus d'autre choix. Nous sommes totalement dédiés à Dieu. Donc l'Esprit de l'Éternel est en ce moment à l'œuvre ici pour anticiper en fait notre dédicace éternelle à Dieu, de sorte que pendant que nous vivons dans le monde, alors qu'il y a plusieurs choix à faire, nous décidons de choisir Dieu et de lui dédier notre vie. Mais quand vous lisez dans Jean 15, Jésus va dire ça autrement. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc autrement dit, il est impossible à un homme de se consacrer à Dieu si le Saint-Esprit n'a pas engagé le processus. Et Jésus le dit aussi clairement, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc le Père attire, Jésus choisit et nous acceptons le choix de Jésus et nous lui dédions notre vie. Donc le Saint-Esprit, il est au commencement et il est à la fin du processus. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez vous débrouiller pour vivre votre vie chrétienne sans le Saint-Esprit, vous pouvez être sûr de passer à côté de la plaque. Parce que vous n'avez pas en vous la capacité de dédier votre vie en vous débrouillant. Imaginez, pendant que vous êtes vivant, vous pouvez vous dire, bon, j'ai pas besoin du Saint-Esprit, mais je vais me concentrer pour dédier ma vie à Dieu. Mais le jour que vous allez mourir, est-ce que vous allez pouvoir avoir cette concentration encore de dédier votre vie à Dieu? C'est pas possible. Donc, c'est le Saint-Esprit, comme la Bible dit, pendant que Jésus marchait sur terre, il n'a pas commis de péché. Mais quand il est mort, on dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, si le Saint-Esprit l'avait laissé là-bas, il n'allait pas ressusciter. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la priorité en matière de consécration, la priorité, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas faire des efforts pour ne pas pécher là. Non. La priorité, c'est le Saint-Esprit. Si tu fais du Saint-Esprit ton meilleur ami et ton meilleur compagnon, tu vas voir que le reste là, ça va aller de façon tacite. Ça va sembler même être facile, alors qu'en réalité, c'est impossible de plaire à Dieu sans la communion avec le Saint-Esprit. Donc ça, c'est le premier élément. Mais nous avons les autres éléments, l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse, ça parle de la croix, parce que la Bible dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, la croix est une sagesse de Dieu, la croix est une puissance de Dieu. Donc c'est la porte d'entrée de l'éternité avec Dieu. La porte d'entrée de l'éternité avec Dieu, c'est la sagesse. Mais quand vous lisez dans les Proverbes, vous allez vous rendre compte que la sagesse, c'est aussi l'évangile. La sagesse, c'est la croix. La sagesse, c'est aussi l'évangile. Puisque dans Proverbe, il est dit que la sagesse crie dans les rues et il appelle les gens pour que les insensés aient la vie. Donc il s'agit de l'évangile, il s'agit de la bonne nouvelle que Jésus a apportée. Donc le Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement, de justice et de jugement. Donc lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs des gens pour qu'ils puissent accepter la parole. Donc, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas prêcher. Puisque dans Actes 1:8, il est dit, vous recevrez d'abord une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être témoins. Et pendant que nous témoignons, le Saint-Esprit va convaincre les cœurs de péché et convaincre les cœurs de justice et de jugement. Et donc, nous sommes assistés par le Saint-Esprit dans notre prédication de la sagesse de Dieu. Et ceux qui nous écoutent sont assistés par le Saint-Esprit pour accepter notre parole et dédier leur vie à Dieu. Donc, deux éléments qui vont s'accompagner, l'esprit de l'Éternel et l'esprit de sagesse. Et c'est pourquoi la Bible dit que si tu as le Fils en toi, tu as la vie éternelle. Mais si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Et comment tu vas avoir le Fils? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment le Fils est arrivé dans le monde? L'ange Gabriel a parlé à Marie. Et Marie a dit, mais comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange Gabriel a dit que le Saint-Esprit va venir sur toi. Et Dieu va te couvrir de son ombre. Et c'est comme ça que le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc c'est le Saint-Esprit qui a introduit Jésus dans les entrailles de Marie. Ce qui fait que lorsque nous voulons que les gens acceptent Jésus dans leur cœur, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. C'est lui seul qui sait comment introduire Jésus dans le cœur des gens. Et pour des gens qui fonctionnent sans le Saint-Esprit, vous devez comprendre qu'ils peuvent gagner des gens par la philosophie, par les raisonnements. Ils seront tous sauf des chrétiens. Ils vont être des membres d'un club, d'une association, ou de ceci ou de cela. Mais le royaume ne va pas le connaître parce que le Saint-Esprit n'a pas fait un travail pour que ces vies-là soient dédiées à Dieu. Alors, on peut continuer. L'esprit d'intelligence. Vous savez, lorsque quelqu'un vient par la croix, il est sauvé. Mais il y a une transformation qui lui reste. Et cette transformation, quand vous allez lire dans Romains 12, versets 1 et 2, vous allez comprendre que la transformation vient du renouvellement de l'intelligence. Donc on accepte Jésus pour être sauvé, mais notre âme rentre dans un processus de salut. L'esprit est régénéré en un seul instant, mais l'âme rentre dans un processus de salut. Processus dans lequel nous sommes en contact avec l'enseignement de la parole de Dieu, et cet enseignement éclaire notre intelligence, qu'on appelle la vieille intelligence ou l'intelligence obscurcie. La lumière de la révélation de la parole de Dieu éclaire notre intelligence obscurcie pour que notre intelligence devienne une intelligence lumineuse. Cette intelligence lumineuse ou intelligence éclairée, la Bible l'appelle la nouvelle intelligence. Et c'est la nouvelle intelligence qui est le moteur de notre transformation. On ne peut pas venir à Christ et puis faire des efforts pour changer. Personne ne peut faire des efforts pour changer. L'apôtre Paul dit, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, il s'agit de s'exposer à la révélation de la parole de Dieu qui est la lumière et qui va nous permettre de recevoir une nouvelle intelligence qui est l'intelligence du royaume des cieux, et notre vie sera adaptée à cette intelligence. Parce que chacun est ce que son intelligence est. Tu ne peux pas être au-delà de ton intelligence. Tout ce que tu es est l'expression de ton intelligence. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, le Saint-Esprit travaille pour renouveler ton intelligence afin que tu puisses ressembler à Christ. Donc tout ça, c'est un processus. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. C'est un processus pour que ta vie soit consacré à Dieu. Et quand tu collabores avec le Saint-Esprit, que tu veuilles ou pas, ta vie sera consacrée à Dieu. Quand on a organisé une cérémonie ou pas, ta vie sera consacrée à Dieu. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit même fait. Ça, c'est son travail. Mais imaginez, dans l'Ancien Testament, les gens n'ont pas cette plénitude. Chacun a une portion. C'est pourquoi, quand vous voyez, par exemple, Élisée qui demandait à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Ça veut dire que ce que Élie avait n'était pas complet. Ah oui. Si c'était complet, pourquoi on demande la double portion? Donc ça veut dire dans l'Ancien Testament, chacun venait avec une portion de l'esprit. Et quand Élisée a regardé la vie d'Élie, il a vu que Élie a fait de grands exploits, mais les défis qu'il a laissés là sont tellement énormes que si lui il prend la portion de l'esprit d'Élie, il ne va pas s'en sortir. Donc il a demandé deux fois. Mais la réponse d'Élie, c'était quoi? Ce que tu demandes est très difficile. Parce que Élie était déjà à un niveau très très élevé. Donc pour avoir deux fois la portion qu'il avait, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas demander la double portion. Double portion de quoi? Puisque Jésus a la plénitude. Et quand Jésus te donne, Jésus ne te donne pas le Saint-Esprit par portion. Jésus te donne la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, c'est dans ta collaboration avec Dieu que les différents éléments vont être activés. Sinon, tu as tout. Quand tu es sauvé et puis le Saint-Esprit vient en toi, tu as tout. Mais il s'agit maintenant d'activer les choses. Par exemple, l'esprit de l'intelligence. Quand tu écoutes un homme intelligent, tu deviens intelligent. Mais si tu es arrivé en Christ, et tu n'écoutes que des prédicateurs médiocres, des prédicateurs de la loi, des prédicateurs de la lettre, des prédicateurs qui n'ont pas de révélation. Tu vas être intelligent comment? C'est comme quand tu mets un enfant à l'école. L'enfant ne peut pas dépasser ses enseignants. C'est ceux qui les enseignent là qui déterminent le niveau de l'enfant. C'est pourquoi les gens payent cher pour amener leurs enfants dans des grandes écoles où il y a de très bons enseignants pour que l'intelligence de leur enfant soit activée. Parce que tous les enfants naissent avec un quotient intellectuel pratiquement égal, en dehors des surdoués qui sont des cas isolés. Donc quand nous venons à Christ également, nous avons cette intelligence en nous, mais il faut qu'elle soit activée. Et elle est activée lorsque nous écoutons des gens qui sont intelligents, et leur intelligence est une lumière qui chasse nos ténèbres et qui nous amène, nous aussi, à un autre niveau d'intelligence. Donc, la sagesse, l'intelligence, et puis après, vous avez l'esprit de conseil. L'esprit de conseil c'est tout ce que nous pouvons mettre comme les soins pastoraux et le ministère prophétique. C'est ça l'esprit de conseil. Cet esprit-là opère à travers des gens qui sont déjà assis. Ils sont bien assis dans la foi et ils aident les autres maintenant aussi à bien s'asseoir. À travers les soins pastoraux, à travers le ministère prophétique, ils aident les gens à trouver leur chemin, ils aident les gens à découvrir leur destinée, ils aident les gens à accomplir leur mission. Mais vous voyez déjà que l'esprit de conseil se trouve au quatrième niveau. Après, vous avez l'esprit de force. L'esprit de force parle du combat spirituel. Parce que la vie chrétienne n'est pas faite que de préceptes, de règles et de lois. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de combat spirituel. Dans l'Ancien Testament, c'était « fais ceci, ne fais pas cela ». Fais ceci, ne fais pas cela. C'est ça la loi, comme on a lu ici là. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, nous avons affaire à deux royaumes qui s'affrontent. Et dans cette confrontation, si tu n'as pas de force, tu vas être écrasé, même si tu es prêt à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Si tu n'as pas de force, tu vas être écrasé. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Attendez jusqu'à ce que la puissance qui vous a été promise vienne. Or, c'est lui qui avait dit que les disciples vont aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Mais il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez d'abord de recevoir la puissance. La force, la puissance, c'est la même chose. Nous devons être équipés de la capacité de Dieu pour pouvoir affronter ou confronter l'ennemi. Nous devons être équipés de la puissance de Dieu pour pouvoir ouvrir le chemin pour d'autres personnes. Nous devons être équipés de la puissance de Dieu pour pouvoir délivrer des gens qui sont liés dans les chaînes. Donc, la force va venir au quatrième position, cinquième position. Voilà. Et puis nous avons en sixième position l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, c'est ce qui nous aide à connaître Dieu. La connaissance de Dieu, c'est donnée à des gens véritablement matures. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous n'avez pas connu sa puissance, si vous n'avez pas connu sa manifestation. La force précède la connaissance. Lorsque vous opérez avec une force divine, vous accédez à une connaissance de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a dit à Moïse, je vais faire éclater ma gloire. Et pour ça, je ne vais pas laisser Pharaon vous laisser partir ainsi. Je vais endurcir le cœur de Pharaon pour pouvoir manifester ma gloire. Parce que je veux que le peuple me connaisse. Ça fait déjà 430 ans. Qu'ils n'ont pas vu ma puissance se manifester, ils ne savent pas de quoi je suis capable. Ils ont vu seulement les dieux de l'Égypte, ils ont vu la souffrance, ils ont vu l'esclavage, mais ils n'ont pas vu le Dieu d'Israël opérer. Donc Dieu dit à Moïse, je vais frapper l'Égypte pour qu'on connaisse la différence qu'il y a entre les dieux de l'Égypte et l'Éternel qui est le vrai Dieu. Donc il va utiliser la force de frappe. Après 10 plaies, la différence sera claire. Et les gens vont commencer à connaître le vrai Dieu. Donc la connaissance de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La Bible dit que Samuel, dans 1 Samuel 3, il était au service de l'Éternel devant Élie, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Donc parfois vous pouvez commencer à servir Dieu sans le connaître. Vous pouvez lui faire confiance sans le connaître. Vous pouvez l'adorer sans le connaître. Ça se trouve au sixième niveau. C'est là où tu as déjà expérimenté de quoi Dieu est capable. quelle est la différence entre ton Dieu et les autres dieux. C'est quand tu as déjà eu des victoires dans des batailles, quand tu as déjà remporté des victoires, tu as réalisé des exploits, tu commences à découvrir qui est ce grand Dieu qui t'a visité pour te sauver. Et puis, le septième, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas aussi donnée à tout le monde. La crainte de l'Éternel est donnée à ceux qui le connaissent. En fait, plus tu connais Dieu, et mieux tu le crains. La plupart des gens qui ne craignent pas Dieu ne le connaissent pas. Mais quand tu connais Dieu, tu le crains. Et cette crainte-là va ramener à un cycle. Parce que l'Esprit de l'Éternel, comme je l'ai dit, c'est l'Esprit de la vie, l'Esprit de la résurrection. C'est ça qui nous amène à l'éternité avec Dieu. Mais les six autres éléments vont avoir un cycle. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, ça va être comme quelque chose en boucle, en fait. Lorsque on arrive à un niveau de crainte de Dieu qui est vraiment satisfaisant au cœur de Dieu, nous sommes devenus des hommes qui produisent la sagesse. Nous sommes devenus des hommes qui amenons les autres à entrer aussi dans la sagesse. La porte de la sagesse, comme je l'ai dit, l'évangile, ce n'est pas tout le monde qui l'ouvre. Il n'y a que ceux qui ont connu Dieu, qui ont la crainte de Dieu en eux, c'est eux qui peuvent ouvrir la porte pour que les autres qui étaient insensés deviennent des sages. Donc, c'est la plénitude du Saint-Esprit, autrement dit les sept esprits de Dieu, ou les sept facettes des opérations de l'Esprit de Dieu qui vont aider chacun d'entre nous à être totalement dédié à Dieu. Ça, c'est un balayage pour que nous puissions voir ce que le Saint-Esprit fait pour nous aider à nous consacrer à Dieu. Je vais maintenant aller sur le premier élément que je voudrais partager avec vous. C'est la révélation. La révélation, nous allons regarder l'exemple de Jacob. Parce que Jacob, quand il quittait sa maison, la maison de son père, pour aller chez Laban, il était déjà un adulte. Son frère était déjà marié, il avait déjà deux femmes. Donc, ce n'est plus un adolescent, il était déjà un adulte. Mais jusqu'à ce qu'il quitte la maison, on ne voit nulle part qu'il a reçu une vision ou qu'il a eu une révélation ou un rêve. Non, il est juste sous la tente avec sa maman. Il écoute les conseils de sa maman. Et comme sa maman avait déjà reçu une parole prophétique qui disait que Jacob allait être plus grand que son frère Ésaü, certainement que sa maman l'a préparé jusqu'à ce qu'il puisse prendre la bénédiction pour partir. Mais quand il partait, une révélation va bouleverser sa vie. Pendant qu'il partait comme un fuyard, parce que son frère voulait le tuer, donc il a quitté la maison pour sauver sa peau, il va se retrouver dans un village qui s'appelle Luz. Et dans Genèse 28, verset 10, Genèse 28, verset 10, Jacob partit de